C'est un ensemble de 783 feuilles, chacune environ d'un format raisin. Sur chaque feuille, Gerhard Richter a collé des dessins ou des photographies, exceptionnellement une, deux ou trois, plus souvent 8, 10 ou 12, parfois plus encore. Chaque feuille est nommée d'après un lieu, d'après l'œuvre qu'elle a suscitée ou accompagnée, ou bien avec un titre générique, pièce, paysage, nature morte, nuage. L'année de leur réalisation est indiquée, et l'ensemble a été publié, du moins jusqu'en 2006, sous le titre générique d'Atlas. Né en 1932 à Dresde, Gerhard Richter a fait des études d'art appliqué, peintre décorateur, nous dit-on, et commencé sa carrière, nous dit-on encore, comme peintre réaliste socialiste avant ses pains bénis de passer à l'Ouest en 1961, et ceci expliqué par cela au lycée de Versailles de passer à une figuration engagée, réalisée d'après des photographies, puis dans les années 1980 et 1990 à l'abstraction. Portraits, nus, paysages, natures mortes, œuvres polychromes ou monochromes, Gerhard Richter a multiplié les genres, les styles et les motifs, créant une œuvre touffue, vivante, changeante. Chacun s'interroge bien sûr sur cette multiplication apparemment sans fin des images. C'est peu de dire que nous en sommes maintenant submergés, et même si elle semble ne pas nous retenir, ne pas nous envahir, à force nous ne les voyons plus, il est probable qu'elle pénètre en nous et y dépose sans que nous le sachions une sorte de sédiment. Pour ceux dont le métier est de faire des images, et qu'elles soient écrites ou dessinées au fond importe peu, ce sédiment prend un relief particulier. Il est composé de dizaines, de centaines d'images glanées ici ou là depuis l'enfance. Certaines ont apparemment totalement disparu de la mémoire, d'autres y ont au contraire toujours surnagé, on ne saura pas pourquoi. Certaines sont isolées comme au milieu d'une flaque, d'autres sont restées collées sur le mur, couches épaisses et gluantes. Certaines rendent un son très sourd et d'autres continuent de hurler, certaines se sont avec le temps effacées et d'autres se sont transformées. Transparence, lacune, superposition, décoloration, retournement, affleurement. La mémoire semble jouer avec ce réservoir un jeu de hasard souterrain, mener sa barque comme à l'insu au sein de cet océan profond et mouvant comme le sable. Si l'on doit penser Atlas comme un réservoir, je rapprocherai volontiers ce processus d'accumulation de motifs des fameux Merzbau de Kurschwitters. La question demeure la même, comment faire avec ou à partir de l'accumulation? De l'accumulation d'images, de formes, de mots ou de sons, de corps venus de l'extérieur? Comment faire avec cette masse sans cesse croissante qui nous enserre, nous étend, nous abreuve, nous file, nous trame, nous troue et nous comble? Ce qu'Atlas donne à voir et ce réservoir se constituant à mesure du temps, fin et moyen en même temps, œuvre filant son fil de ciel, d'enfants, de visages et de couleurs. C'est à l'image exacte de la mémoire un gigantesque collage. L'œuvre découlant de ce réservoir serait le fruit d'un processus de rappel, puisant à la fois directement dans une image particulière et s'inspirant parallèlement d'autres images qu'on dira associées, en les fondant comme le collage sur une unique surface. Cela dit, force est de constater que la peinture a presque toujours utilisé des images extérieures. Le motif, qu'il soit de portrait, de nu ou de paysage, n'est jamais qu'un pan de la réalité que l'on isole et que l'on transforme. La nouveauté est depuis l'invention de la photographie qu'au lieu de partir de la réalité réelle, s'il est permis de s'exprimer ainsi, des peintres ont eu recours à ce premier intermédiaire qui est la photographie. Adjaye, par exemple, s'était fait une spécialité de ses photographies à destination des peintres. La civilisation de l'image s'étant considérablement développée à partir de la fin du 19e siècle et plus encore ces 50 dernières années, le problème s'est accru et généralisé de la perception de la réalité passant maintenant uniquement par le biais d'une représentation. Cartes postales de paysages, images de presse, photographies numériques, télévision. Un enfant a toutes les chances d'avoir vu la mer ou la montagne sur une image avant que de les avoir réellement vues. Dans cet ordre d'idées, le travail de Gerhard Richter, tout comme précédemment le travail d'artiste du pop art, consiste en une retransformation de ces images déjà largement diffusées par le biais d'un média artistique, je pense en particulier aux séries des 48 portraits, planches 30 à 37, ou encore de la magnifique série du 18 octobre 1977 consacrée au suicide des membres de la bande de Badermannhof, planches 470 à 479. Il en ira de même, mutatis mutandis, pour les images intimes, photos de femmes, photos de sa fille, de son fils, autoportraits. Dans tous les cas, le réemploi s'accompagne d'un brouillage qui marque la distance, l'écart, entre la réalité et l'œuvre, quand bien même celle-ci resterait peu ou prou descriptive. La question des origines est toutefois posée avec cet atlas qui donne l'impression d'en dresser une carte, d'en donner un répertoire. Je suis intimement persuadé qu'il s'agit là d'une illusion. On croit tenir avec ces planches comme un secret de fabrication alors que l'on n'a en quelque sorte qu'une carte ou un dictionnaire. Rien ne nous est dit de la manière de faire une phrase avec les mots du dictionnaire. Rien ne nous est dit des péripéties du voyage qui nous a menés d'ici à là. Et s'il est possible de rêver à partir des planches d'un atlas, c'est bien en soi que le rêve se forme et s'élabore et non dans l'atlas lui-même. Mais la mode est au soi-disant secret de fabrication et, outre qu'il paraît inévitable de se coltiner encore et encore avec des images, l'histoire de l'art se gorge à loisir de la question des sources. Savoir d'où ça vient constitue à l'évidence une question importante, j'allais dire rassurante, comme si toucher du doigt la pseudo-réalité des origines permettait de rendre les choses plus intelligibles, voire surtout plus acceptables, c'est-à-dire in fine plus contrôlables. On pourra par exemple vérifier dans l'Atlas que nombre des peintures abstraites de Richter représentent en réalité des paysages. L'élucidation du processus créateur, mes chers amis, est une tarte à la crème redoutable. La pédagogie en cette matière devrait ressembler à une série d'énigmes alignées comme à la foire les boîtes de conserve qu'il s'agit ensuite de dégommer avec une balle en chiffon. Je l'ai écrit du dedans et du dehors, dit Hugo des Misérables, et en effet, moi je trouve que c'est une excellente explication. A l'inverse, Jean-Pierre Reynaud nous expliquant à quel point il aime les pots de fleurs est aussi stupide et consternant que les 10 pots de fleurs. De même, Gerhard Richter nous livrant son atlas, à mes yeux, se fiche tout autant de nous que Francis Bacon posant dans son atelier avec ses piles de magazines. Du moins, n'est-on pas forcé d'être dupe ? La vraie vie est ailleurs, disait Rimbaud. Alors fermez le livre, quittez la page. La mémoire est un matériau beaucoup plus subtil qu'un sismographe. Et Rousseau le douanier, quoi qu'on en ait dit, n'est pas plus douanier que virtuose du pantographe. C'est ailleurs, bien sûr, que cela se passe. Dans la chambre, sous le lit, ou bien à l'autre bout de l'horizon. L'œil a des mains d'aveugle qui connaît des histoires muettes, comme sur la vitre s'efface la buée où était écrite la formule magique. Le merveilleux n'a jamais voulu dire son nom. Et la poésie, nous explique Nerval, est toujours contraire à l'ordre public. »